Le chevalier de ventre à terre. Au premier chant du coq, le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. C'est la guerre. L'armée du chevalier de Cornemolle, son ennemi juré, a envahi hier son carré de Frésie. L'affaire ne peut se régler que par une bataille sanglante et sans merci. Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son homme, il est prêt. Enfin presque. Quelques messages à envoyer, l'affaire d'une minute. Ça y est, il peut y aller maintenant, il est parti. Pas tout à fait. Voilà que, en s'en allant, sans dire au revoir à ses enfants. Cette fois c'est bon, il y va. Il n'est plus là. Juste un dernier baiser à son épouse, et puis un autre dernier... Le chevalier de ventre à terre a disparu. Pas une minute à perdre. Il marche d'un pas décidé. C'est à peine s'il prend le temps de secourir une princesse, d'indiquer son chemin à une fillette égarée, d'affronter un terrible géant, de jouer une partie d'échecs avec une vieille amie, et de graver sur un champignon le nom de sa bien-aimée. Le chevalier de ventre à terre est en vue du champ de bataille. Apparemment, on n'attend plus que lui. On va enfin pouvoir en découdre. Ah ! Et c'est déjà l'heure du déjeuner. Bah, il déjeune. Les deux groupes, ils déjeunent. Ah ! Quel silence à présent. Le champ de bataille est jonché de corps inertes. Sont-ils tous morts ? Non. On ne peut se battre le ventre plein. Une petite sieste est nécessaire. Mais il se fait tard et chacun a de la route pour rentrer chez soi. Impossible en si peu de temps de mener à bien une bataille sanglante et sans merci. Alors, on se serre la main et on se fixe un rendez-vous au lendemain. Le chemin du retour est rapide et sans histoire. Oh, comme il est doux d'être enfin chez soi. Oh, oh. Le lendemain, au premier chant du coq, cocorico ! Le chevalier de ventre à terre ouvre un œil et s'exclame. Pas une minute à perdre, pas une minute à perdre. Il avale un frugal petit déjeuner, esquisse quelques mouvements de gymnastique, fait une rapide toilette, saute dans son armure, enfile son homme, mais vous connaissez déjà l'histoire. Moralité. Dans la vie, il y a tout un tas de choses qu'on peut parfaitement remettre au lendemain, mais surtout pas un bisou baveux.
Lui dit, ô mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Le bon roi Dagobert avait un grand sabre de fer. Le grand saint Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté pourrait se blesser. C'est vrai, lui dit le roi, qu'on donne un sabre de bois. Le bon roi Dagobert, chassé dans la plaine d'Anvers, le grand saint Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi, un lapin courait après moi. Le roi Dagobert se battait à tort à travers. Le grand saint Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté se fera tuer. C'est vrai, lui dit le roi, mets-toi bien vite devant moi. Le bon roi Dagobert voulait s'embarquer pour la mer. Le grand saint Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté se fera noyer. C'est vrai, lui dit le roi, on pourra crier le roi boit. Quand Dagobert mourut, le diable aussitôt accourut. Le grand saint Éloi lui dit, oh mon roi, Satan va passer, faut vous confesser. Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi? Hélas, lui dit le roi, ne pourrais-tu mourir pour moi?
Radio confinée, la radio en phase avec la nature.
Et un gros bisou à Maëlia, après ce compte.
Donc, Radio On Est Là, 107.7, un téléphone pour nous joindre, le 07 54 10 72 59. 07 54 10 72 59.
Il y a aussi un mail où vous pouvez nous envoyer des textes, des documentaires sonores, ce genre de choses. C'est radioonestla@riseup.net. radioonestla@riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Et il y a également un blog où vous pouvez écouter toutes les émissions précédentes. On a créé un onglet, la récolterie, où vous avez justement tous les documentaires sonores, tous les témoignages qui nous ont été envoyés via le mail. Le blog, c'est radioonestla.noblog.org. Et maintenant, on va vous dire un peu le programme de cet après-midi. Donc, il y aura nos petites brèves quotidiennes. Et après, on vous propose d'écouter un documentaire sonore qui a été fabriqué par la MJC des Tilleuls de Saint-Étienne. Et à 16h30, on recevra en direct un professeur d'histoire qui viendra nous parler de l'épidémie de peste noire. Et maintenant, un peu de musique avant les brèves. Thank you. Vous êtes bien sur Radio On est là, écoutable sur 107.7 sur les ondes si vous êtes dans notre coin. On ne dira pas exactement où. Et écoutable aussi sur lasfero.net en streaming. On vous rappelle qu'on a lancé une petite initiative pour récolter des dessins pour la maison de retraite l'EHPAD de Saint-Anthème suite à l'interview qu'on avait faite d'une personne qui travaille là-bas. On en a récolté quelques-uns, donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et on rappelle aussi que cette radio, elle peut servir pour plusieurs initiatives d'entraide, de soutien, comme par exemple mutualiser les courses. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous appeler au 07 54 10 72 59 et vous pourrez aussi passer en direct si vous voulez.
Et maintenant, on va passer au bref.
Après le drone policier de Nice qui diffuse des appels à respecter le confinement, Cannes met en place un système de drones nettoyeurs et prévoit ce vendredi une opération de désinfection aérienne accompagnée de deux agents au sol. Cette opération se fait contre l'avis du Haut Conseil de la Santé publique rendu le 4 avril, qui déconseille ce type de pratique en l'absence d'arguments scientifiques sur leur efficacité, et celui du gouvernement qui rappelle que l'usage massif de produits de désinfection en plein air peut conduire à des effets néfastes sur la santé et l'environnement.
Une autopsie doit avoir lieu ce vendredi dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Béziers pour homicide involontaire après la mort d'un homme sans domicile fixe suite à un contrôle par les forces de l'ordre. L'enquête révèle pour le moment qu'il est décédé après avoir été transporté au commissariat de police, malgré, selon le SMUR, plus de trois quarts d'heure de tentative de réanimation dans les locaux du commissariat.
Jusqu'ici, 140 établissements pénitentiaires ont mis en place des ateliers de couture de masques de protection par les détenus, payés 6 euros de l'heure. La production dans ces conditions, en dehors de tout respect du code de travail, atteint 5000 masques par jour, dont 80% vont au personnel hospitalier parisien et le reste aux surveillants pénitentiaires. La majorité des détenus, eux, continuent à vivre dans la promiscuité et sans le moindre masque.
Un avocat alerte sur certaines adaptations de la justice pendant cette crise sanitaire. Alors que tous les procès d'assises ont été renvoyés à plus tard, quelques audiences pénales ont été maintenues devant le tribunal correctionnel, obligeant l'audience à se dérouler dans l'urgence et parfois par visioconférence, rendant les détenus inaccessibles au public et à la vue de tous. Par ailleurs, suite à la validation par le Conseil d'État de la prolongation des détentions provisoires, des membres de la justice envisagent de saisir les instances européennes.
En Italie, le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Les contrôles seront renforcés pendant le week-end de Pâques par crainte que des gens partent dans leurs maisons secondaires. La Confindustria, l'équivalent du MEDEF en Italie, commence à mettre la pression pour une reprise du travail, surtout dans les grands bassins industriels que sont les régions du Nord. Des dérogations pour la reprise du travail ont été négociées en fonction des mesures de sécurité mises en place. Sachant que les usines de fabrication d'armes et d'aérospatiales sont ouvertes sans avoir eu besoin de dérogations. Ces dérogations sont pour des usines non essentielles, dénoncent les syndicats.
Près de 200 détenus de la prison de Washington se sont révoltés en apprenant que plusieurs prisonniers étaient atteints du coronavirus. Rappelons que les prisons des États-Unis sont parmi les plus surpeuplées du monde et que le virus fait déjà des ravages dans des villes comme New York. Libération de tous les prisonniers.
La CGT FERCSUP de l'Université de Caen-Normandie s'oppose à ce que les examens soient passés à distance, comme le propose le directeur de l'université. Cette modalité de contrôle des connaissances induit de fait une rupture d'égalité face aux examens. Le syndicat réclame une modification du calendrier de manière à déplacer les examens fin juin et en septembre, avec une validation d'office pour toutes et tous les étudiants si le confinement dure toujours au mois de juin.
Dans un courrier à la préfète des Landes, la CGT réclame une meilleure protection pour les agents des EHPAD, des différentes structures médico-sociales et autres employés municipaux en général, ainsi que l'arrêt des activités non indispensables.
Alors que l'État peine à munir la population et notamment les travailleuses et travailleurs les plus exposés avec du matériel de protection, il vient en revanche de repasser une commande massive de gaz lacrymogène. Redoute-t-il la colère qui enverra les rues à l'après-confinement ?
Même la preuve que quand on parle de l'inefficacité du gouvernement, il y a quand même des mauvaises langues. Encore une. Dans des collèges et lycées du 94, des chefs d'établissement demandent au personnel précaire, tels les surveillants, de téléphoner à toutes les familles, non pas pour prendre de leurs nouvelles, mais pour vérifier que chaque prof envoie bien du travail. Des parents d'élèves ont dénoncé ce flicage et l'urgence est sociale et pas pédagogique.
Depuis le 19 mars, les associations Utopia 56 et l'Auberge des migrants ont reçu 18 amendes pour non-respect du confinement, alors qu'elles effectuaient leur maraude, leur permettant d'amener de quoi survivre à ceux qui n'ont nulle part où se mettre à l'abri. Ce harcèlement policier est criminel.
En Allemagne et en Autriche, les syndicats ont réussi à obtenir une hausse des indemnités de chômage temporaire. En Autriche, les salariés recevront ainsi non plus 60% de leur salaire net, mais 85% de leur salaire brut. En Allemagne, après une pétition à succès demandant à ce que les indemnités soient 90% du salaire net, le ministre du Travail a annoncé une augmentation. Mais pour le moment, les améliorations se font surtout par secteur, alors que les entreprises bénéficient d'aides de l'État, exigeant un salaire plein pour tous.
Sud Santé Sociaux se dit interloqué par l'appel du CHRU de Brest aux couturières bénévoles pour confectionner des surblouses, ce qu'ils dénoncent comme du bricolage, alors que l'établissement dispose d'un budget excédentaire. Ils demandent que les entreprises soient obligées de fabriquer du matériel de protection pour toutes les catégories de personnel.
Lors d'un jugement référé, la Poste a été assignée à répondre dans les meilleurs délais à la demande de Sud PTT d'élaborer et de diffuser un document détaillant chacun des risques professionnels identifiés du fait de l'actuelle crise sanitaire. Le tribunal n'a cependant pas accepté la demande du syndicat d'instaurer une instance nationale de concertation et un bilan sanitaire précis.
Une petite brève locale. Les salariés du site de logistique Jacques Brossard de Ladoux dans le Puy-de-Dôme ont débrayé ce jeudi. Par cette grève reconductible à l'appel de la CGT, les salariés espèrent obtenir des mesures contre les cadences de travail qui se sont intensifiées suite aux demandes grandissantes pour des produits comme du pain de mie. La CGT revendique ainsi qu'il soit permis aux salariés qui le souhaitent de rester chez eux sans perte de salaire. Une prime de 500 € net par mois pour ceux qui vont travailler, le respect des aménagements de poste pour que les salariés puissent se reposer, la mise en place de tous les moyens possibles de protection et un soutien psychologique.
Le nombre de salariés de la RATP en arrêt de travail s'élèverait à 12 000 sur un total de 45 000. Si un tiers bénéficie d'un arrêt pour garde d'enfants, un tel nombre d'absences reflète la situation inquiétante au sein de la régie. Alors que 2 salariés sont décédés, 97 officiellement contaminés, dont 9 actuellement hospitalisés, parmi lesquels 3 en réa, les agents n'ont reçu des masques chirurgicaux 2 par jour qu'à partir de ce mercredi 9 avril. Les syndicats réclament cependant davantage de transparence, notamment sur les catégories d'agents infectés, et une partie des agents revendique l'arrêt total des transports.
La mairie de Paris a coupé les points d'accès public à l'eau, on en parlait hier, dans plusieurs points à Paris, privant ainsi les sans-abri d'un accès à de l'eau potable et à la possibilité d'un brin de toilette, particulièrement cruciable en ces temps d'épidémie. Un appel a été lancé par la Chapelle en lutte pour inventorier toutes les fontaines, bornes publiques et robinets fermés, les réouvrir et à leur envoyer l'info par mail. Alors le mail c'est leopoldine.manac@gmail.com, on pourra le mettre sur notre blog, et aussi d'écrire à la mairie de Paris pour demander le rétablissement de l'eau.
Des chasseurs ont été réquisitionnés par le préfet de Seine-et-Marne pour prévenir et signaler aux représentants des forces de l'ordre les infractions aux règles de confinement.
Les morgues se retrouvant saturés du fait de la mauvaise gestion de l'épidémie par les pouvoirs publics, un entrepôt de Rungis a été réquisitionné pour accueillir les corps des personnes victimes du coronavirus. Comme si la difficulté des proches des victimes à faire leur deuil n'était pas déjà assez terrible, l'administration fait payer aux familles la somme de 150 € pour le passage du cercueil à Rungis, auquel s'ajoutent 35 € par jour au-delà de 6 jours, délai légal d'inhumation, quasiment impossible à faire respecter en ce moment. Les familles doivent de plus débourser 50 € supplémentaires pour avoir le droit de se recueillir une heure auprès du cercueil. Rungis déclarant avoir prêté l'entrepôt gratuitement, ces décisions inhumaines seraient du ressort du préfet et du ministère de l'Intérieur, dont la cruauté est donc à toute épreuve. Maintenant, un peu de musique.